De retour à l'émission Au gré du temps avec Gilles Pelletier qui est avec nous pour cette deuxième semaine. Au terme de la première émission, de la première partie de cette émission, nous avons entendu le tour de l'île de Félix Leclerc. Vous disiez qu'il avait été profondément blessé.
Ah, il y avait mal, il faisait pitié, il est parti courbé comme un vieil homme en nous saluant la main derrière lui sans montrer son... sans qu'on voit son visage, probablement qu'il pleurait. Mais il est parti courbé, puis il envoyait la main de dos. T'sais.
Si Félix était avec nous aujourd'hui, que dirait-il, quelle lecture ferait-il du Québec contemporain? Vous avez parlé de fierté...
Parler au nom d'un autre, oui. Félix, évidemment, était souverainiste parce qu'il aimait le pays, parce qu'il avait de la mémoire, parce que ses parents l'avaient bûché, ce pays-là, l'avaient partagé, l'avaient cultivé. C'est tout ça. Il y a combien de Québécois qui sont conscients de ça, qui appartiennent au pays, qui aiment encore leurs racines?
Vous aurez compris.
Je ne pense pas s'en aller en Floride.
Vous aurez compris que c'est une question détournée pour vous demander à vous quelle est votre lecture de ce Québec.
Beaucoup de jeunesse, comme on n'en avait jamais connu, inventive, passionnée, créative et souveraine individuellement. Aujourd'hui, nos Québécois, quand on allait à Paris, nous, on se forçait un petit peu l'accent pour ne pas avoir l'air québécois. Aujourd'hui, ça parle québécois dans tous les coins du monde. Puis ils sont comme ils sont. Ils sont souverains. Ça devient d'autant plus difficile de leur parler de souveraineté politique. Je dis, mais pourquoi? On est bien comme ça. C'est assez, moi... Mais c'est une jeunesse extraordinaire, je trouve. Ben, regardez tout ce qui se crée dans le domaine des arts, dans l'astronautique, dans tout. On est un petit peuple à la fine pointe du progrès dans beaucoup de domaines. Regardez, Ouachdi, Denis Marlowe, font le Festival d'Avignon. Vous dites que nos bacheliers de collège classique, dans le temps, il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu le faire. Hein?
Claude Gauthier avait mentionné dans sa chanson « Le plus beau voyage » que nous sommes issus des patères d'austères autour de la table. Pourrait-on dire que le Frédéric de Claude Léveillé a aussi beaucoup grandi?
Ah oui, oui, mais là on touche à une fibre familiale qu'on a tous connue. Je ne sais pas si dans les familles reconstituées d'aujourd'hui, il y a cette même, tu sais, pendant que maman nous servait... Les dimanches, la fête familiale, je ne sais pas s'il y a encore ça dans les familles.
Mais la chanson de Claude Léveillé reste toujours...
J'avais un camarade français, Bernard Tiphaine, qui tournait en France, passé 6 mois en France. Et Bernard Tiphaine, lui, faisait jouer cette musique-là tout le temps. Il disait, c'est tellement beau, tellement beau. Il dit, j'ai l'impression d'être au Québec quand on va dans la famille. L'image qui se faisait du Québec.
Alors la voici.
Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux quatre vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard, et moi j'ai suivi. Depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver tout fin seul, t'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui tu bois du vin, bon ça fait plus sérieux. Le père prend un coup de vieux et tout ça, ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric...
Vous avez évoqué, on écoutait Claude Léveillé, vous avez évoqué précédemment qu'il y avait eu des rôles moins à succès, ça me rappelait un mot de Pagnol qui avait dit un jour, si la pièce était si mauvaise que les acteurs eux-mêmes partaient avant la fin. Est-ce qu'il vous est arrivé en carrière d'avoir vraiment le sentiment que ça ne lève pas?
Oui, c'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois. J'avais vu une pièce au Rideau Vert il n'y a pas tellement longtemps. Puis on était tous... Mon Dieu, tout le monde était découragé tellement ça ne marchait pas. Et la pièce, la traduction et la mise en scène, ça ne passait pas. Puis on venait de dire, Gérard Poirier et moi, c'est effrayant. Mon Dieu, c'est mortel. Il arrive quelqu'un, il dit, « Oh! C'est tellement beau, vous êtes tellement extraordinaire, tout le monde! » On se disait, est-ce qu'il veut rire de nous autres? Non, lui, il avait trouvé ça beau, alors. Mais ça arrive des flops. C'est pas la salle qui est là tellement que les billets qui se vendent pas. La salle qui se vide tranquillement et évidemment ceux qui partent à l'entracte donnent un bon signal que ça ne touche pas tout le monde.
Mais ce monsieur qui vous récompensait en vous disant que vous étiez bon, Jules Renard lui aurait dit « Quand un acteur est mauvais, l'applaudissement le rend pire.
» Mais c'est vrai.
Je m'en voudrais de ne pas parler de ce personnage de Xavier Galarneau qui a vraiment marqué la télévision et marqué l'imaginaire collectif parce qu'il évoquait, si j'ose dire, un passé sombre de notre histoire à travers l'histoire d'une famille et un rôle que vous avez incarné avec tellement d'éloquence.
Oui. Je l'ai incarné, oui, c'est vrai. Mais la grande chose dans ce phénomène d'héritage, c'est l'écriture de Victor Lévy-Beaulieu. C'est un très, très, très grand écrivain. C'est un créateur de mots et d'expressions extraordinaires. Lisez sa dernière brique, qui s'appelle « La grande tribu ». C'est fantastique. Mettre son âme à nu à ce point-là. Évidemment, l'héritage était une dramatique télévision. Cette indécence-là que Lévy nous livre, le fond de son âme dans son œuvre, parce que c'est ça le grand artiste, c'est celui qui souffre et qui, à un moment donné, livre tout. Il y en avait dans l'héritage. Vous savez, un homme qui rend, par la langue, acceptable à un public populaire. L'émission était très populaire.
Tout à fait.
Un homme qui prononce des incantations bibliques et chevaleresques, une espèce de mélange des deux, sur le corps d'une jument morte, et que tout le Québec écoute ça, puis vibre à ça. Ça demande une langue, une poésie extraordinaire.
Et le fait de jouer avec Nathalie Gascon, qui était la fille d'un de vos grands amis, ce doit être particulièrement touchant.
Oui, mais remarquez bien que dans l'héritage, j'ai très peu joué avec Nathalie.
Effectivement.
Nathalie est à Montréal, puis moi j'étais... Quand il meurt, Nathalie, elle revient. Mais pour moi, mon grand... Ben, mes grands partenaires dans ça, c'est d'abord Gonebitch, qui est mort maintenant.
Gravel.
Oui,
j'oublie son prénom.
Robert.
Robert Gravel.
Robert Gravel.
Voilà.
C'est Sylvie. Ouais. Mon Dieu, les noms. Sylvie Léonard. Et puis Desgagnés.
Oui.
C'est les gens avec qui j'étais toujours. Et Robert Rivard, qui jouait mon voisin, qui connaissait Xavier, qui connaissait toute sa vie, puis qui était d'une discrétion extraordinaire. On sentait que Xavier avait quand même du respect et de l'estime pour lui. Ça, c'était mes partenaires. Les gens de Montréal, Jean-Louis Millette, pas eu beaucoup à faire avec eux, Geneviève Rioux et Nathalie Gascon.
Oui. On n'a pas été. Mais le paradoxe, c'est que tout le Québec, comme vous le dites, était à l'écoute de l'héritage, ou à peu près. On détestait ce Xavier Galarneau, et en même temps, on l'adulait parce qu'on aimait voir le personnage de Xavier Galarneau qui occupait tout l'écran.
Mais vous savez, au fond, ce que c'est, ça. Souvenez-vous de Cicotte, Hubert Cicotte, qui jouait son macho.
Voilà, dans, la pièce, dans le téléthéâtre de Madame Payette.
De Lise Fayette, oui. Oui. Bon, mais ça, même chose sur l'héritage. L'acteur, ce qui fait l'onde porteuse de ce que fait un acteur, autant au théâtre, c'est la joie qu'il a à le faire. Un acteur triste, il n'y a rien qui passe. Même en tragédie.
Et vous avez eu beaucoup de plaisir à interpréter ce rôle?
Oui, puis même plus que ça, ce que le public aime dans Séraphin, dans Xavier Galarneau, puis dans le personnage de Gilbert Cicotte, c'est Gilbert, je le voyais, moi, je le connais, lui, qui disait, vous pensez qu'il était écœurant, mon gars, vous pensez qu'il est macho, mais regardez, ben, frère, il va être deux fois plus macho encore, puis il en rajoute quelque chose. Et ce plaisir-là, il est dans l'acteur, mais il passe dans le public. Et dans Xavier Galarneau, c'est la même chose.
Vous sentiez même à la télévision, vous pouviez sentir cette présence du public?
Non, c'est pour soi. C'est pour soi d'abord qu'on le fait.
Mais on le sait cependant le public est à l'écoute.
C'est que... non, c'est... Je suis écœurant, hein? Mais regardez-moi mes frères, mais deux fois plus écœurant. C'est ce plaisir-là.
Une forme de jouissance.
Une forme de jouissance, voilà. Ben oui, mais c'est jouissif. L'art est jouissif. Quand je vous parle de Victor Lévy Beaulieu dans La Grande Tribu, c'est ça. Il dit tout, tout sort.
Monsieur Pelletier, je vais vous faire découvrir probablement une autre jouissance. C'est une chanson magnifique dont vous m'avez dit que vous ne la connaissiez pas. Elle est de Raoul Duguay. Vous connaissez bien sûr Raoul Duguay.
Oui.
Associe beaucoup Raoul à...
C'est le titre que je connais pas. Ça m'étonnerait que je connaisse pas quand même, que je reconnaisse pas la chanson.
La chanson, c'est presque un hymne à l'amour à l'égard du pays. Elle a pour titre Le Lys, Raoul Duguay. Cette chanson, n'est-ce pas?
Ah!
Elle aurait intérêt à être mieux connue.
je le rencontrais, Raoul, avec son chien sur le Mont-Royal. Promener nos chiens.
Vous êtes né à Saint-Jovite, mais vous avez très vite été ici, à Montréal. Vous avez été élevé sur le plateau Mont-Royal, sur la rue Saint-Hubert, je crois.
Saint-Hubert, près de Chérier, oui.
Dans la paroisse
Saint-Louis-de-France. On disait Saint-Louis-de-France.
Saint-Louis-de-France, voilà.
Parce que Plateau-Mont-Royal, c'était plus haut, en haut du parc de la Fontaine, là.
pour nous. Et curieusement, le petit gars de Montréal, du plateau ou de Saint-Louis-de-France, a eu des ambitions de navigation et vous avez beaucoup navigué dans votre vie.
Oui. Oui, puis c'est curieux parce que c'est une affaire entre qui vient de l'enfance, entre le ciel et l'eau. J'ai toujours été amoureux de l'eau, eau et vent, et du ciel. Enfin, j'ai... Et quand j'ai grandi, nos voisins, les marchands sur Saint-Hubert, étaient d'une famille de marins. Et quand le capitaine Marchand venait avec le Mont-Louis à Montréal, j'allais sur le bateau. Et les enfants, les fils Marchand, Yves et Claude, naviguaient avec leur père l'été sur le bateau. Et voyant qu'ils faisaient ça, parce que moi, j'étais juste un petit voisin, il ne m'amenait pas dans ces voyages-là, je me suis engagé sur un bateau. Le Meaford, la Canal Steamship, faisait Gaspé, Trois-Rivières. Puis j'étais tellement heureux. J'avais trouvé ma place.
On n'a pas beaucoup parlé de votre compagne, Françoise Graton, qui a navigué beaucoup aussi avec vous, dans tous les sens du mot.
Ah oui, on a bourlingué.
Une belle histoire de plus de 40 ans.
Oui, c'est curieux. L'amour fort, l'amour passion, dans la jeunesse, enfin, peut-être pas la prime jeunesse, mais quand on est jeune.
Oui.
Dans le souvenir, c'est cet amour-là et c'est cette personne-là qu'on aime tout le temps. Dans la personne vieillissante qui est avec nous, c'est évident.
Bien sûr.
Mais c'est toujours à travers ça. C'est la même chose que le pays. On aime ce qu'on a aimé. Parce que ça vit tout le temps. Avec les marques du temps, avec des changements qu'il peut y avoir dans l'environnement, dans nos vies, mais c'est la même personne qu'on aime. La même, une autre chose, la musique. Je m'aperçois maintenant que les découvertes musicales que j'ai faites beaucoup plus jeunes sont toujours supérieures aux mêmes pièces musicales, beaucoup mieux interprétées et enregistrées maintenant qu'à l'époque, mais c'est celle-là que j'aime le plus, celle du temps.
Parce qu'on s'y attache.
Parce que, en plus du plaisir, par exemple, Les Vêpres de 1610 de Monteverdi.
Oui.
J'avais écouté ça, moi, j'avais peut-être 20 ans. Et Nadia Boulanger. J'ai été complètement envahi, possédé par ça. Edgar Fritier me dit, il y a 4 ou 5 ans, « Oh, mon Dieu, c'est passé maintenant, il y en a tellement des meilleurs. » Et j'en ai acheté un, sur sa recommandation. Je reconnais que c'est bien meilleur. Mais ça m'apporte pas la même joie. Pourquoi? Parce qu'en même temps que Monteverdi, que les chanteurs, il y a la joie encore plus profonde de la nouveauté. J'ai découvert ça. Ben, Françoise, c'est encore ça. Il y a, dans mon regard sur elle, encore le regard que je portais sur elle dans le temps de Capot Sorcier. Je sais pas si c'est un souvenir. C'est pas de l'actualisation.
Et cette générosité, lorsqu'on vit l'un et l'autre pendant d'aussi nombreuses années, il faut que cette générosité soit présente. Vous avez été aussi généreux à l'égard de la relève. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, d'avoir assisté à un festival du court-métrage à Jonquière, où on avait présenté, j'ignore le titre du film, mais il s'agissait d'un monsieur atteint de la maladie d'Alzheimer.
Oui, dans un hôpital. Un hospice, oui.
Voilà, et qui se fait, permettez-moi l'expression, arnaquer par 2 préposés qui passent pour être leurs de ses enfants. Et l'auteur de ce film était venu sur scène et avait dit, Monsieur Pelletier...
Girard, je pense.
C'est possible. Oui. A accepté généreusement de nous donner un coup de main à l'élaboration de ce film par sa présence. Et c'était un film extraordinaire.
Oh, c'est un très beau film.
Vous vous souvenez du titre?
Oh mon Dieu. C'est drôle parce que...
Mais c'est un court-métrage...
Oui. J'étais à Bruxelles. Non, en Belgique, en tout cas, dans une ville. Oui. On déjeunait le matin avec la chanteuse qui était dans le spectacle avec nous. Et elle dit, mon Dieu, c'est toi, Gilles. Je me retourne et sur l'appareil, c'était ce film-là qui passait en Belgique.
Ah oui.
Ça a gagné des prix, d'ailleurs. C'est assez...
Donc, la relève pour vous, c'est important.
Oh, mais là, il n'y a pas d'inquiétude dans ça. Vous savez, je vais voir toutes les pièces de théâtre nouvelle. Et il n'y a pas une soirée que je passe au théâtre sans que je ressorte de là avec au moins un nom de comédienne ou de comédien fantastique qui viennent de sortir des écoles. Il y en a. Il y en a trop.
Au terme de cette émission, laissons Gilles Vigneault poser la question que retenir.
Sous la peau, la chair et la chaîne. Sous les mots, la joie et la peine. Sous la main, la larme et la haine. Sous le sein, le lait et le cœur. Sous le chant, la source et la sève. Sous le vent, la dune et la voile. Sous le jeu, la paix et la guerre. Sous le feu, la cendre et le sang. Que retenir de ces miroirs? Au bord du soir, que retenir? Sous le pied, la marche et la danse. Sous le joug, la honte et la rage. Sous la mer, le sel et la vie. Sous l'hiver, la fleur et le temps. Sous la nuit, l'oubli et le rêve. Sous le pont, la barque et la rive. Sous le ciel, les glands et la grive. Sous la mort, la nuit et le jour.
Gilles Pelletier, que retenir de cette vie, à l'aube de vos 85 ans que vous célébrerez dans quelques semaines? C'est quand même une vie heureuse, une vie bien remplie à tout le moins.
Une vie chanceuse, je dirais. Naître dans la famille dans laquelle je suis né, mon père, ma mère, ma sœur Denise, les grands-parents Vaugeois, chez qui on a passé tellement de temps, les grands-parents Pelletier qu'on voyait moins parce qu'ils étaient à Kamouraska, les autres, on y allait moins souvent. Cette famille-là, des terriens puis des gens d'eau, les Vaugeois, c'était des bâtisseurs d'écluses, des gens d'eau, navigateurs. Donc... C'est une chance extraordinaire. Et quand j'ai commencé dans le métier, d'avoir rencontré presque tout de suite des auteurs qui ont dit « Je vais t'écrire un rôle ». Presque tout de suite. C'est une chance d'être arrivé là, à ce moment-là.
Et la mort...
C'est beaucoup plus difficile maintenant, la mort.
Et la mort. Est-ce que ce grand rôle vous fait peur?
Non, pas quand j'en parle comme ça. Non. L'idée de ma mort est telle... C'est-à-dire, j'aurais peur de l'inconnu, de ce que je connais pas. Je suis tellement sûr que je vais mourir que ça ne me fait pas peur. Et qu'il y a un côté positif dans ça. Là, je raisonne, hein. Côté positif, c'est que c'est la fin du doute. Si c'est le néant, parce que c'est le néant, si il y a une vie de l'âme après la mort, je vais le savoir. Pour le moment, je ne le sais pas.
Mais il y a une espérance.
Mais ça, si je pose la question, c'est qu'il doit y en avoir une quelque part. Mais si Je dis ça. Rien ne dit, parce que là, je suis un homme en santé qui dit ça. Malade, fiévreux, je sais pas si je dirais pas, j'ai pas vécu, j'ai 10 ans de plus, je ne sais pas. Jean de La Fontaine dit, dans la mort et le mourant, le plus semblable aux morts meurt le plus à regret.
Gilles Pelletier, merci infiniment de cette présence généreuse à l'antenne.
C'est un plaisir.
Ça a vraiment été un plaisir partagé, une grande joie que de vous accueillir. Je suis certain que les auditeurs et auditrices à l'écoute en sont aussi ravis. Merci beaucoup. Bonne santé, longue vie et bravo pour cette carrière extraordinaire.
Mais la vie, il y en a plus en arrière qu'en avant. Longue vie quand même. Merci.
Merci. C'était l'émission Au gré du temps avec nous, Gilles Pelletier, Armand Dubois au micro, qui vous souhaite de passer une agréable semaine, de nous revenir la semaine prochaine. L'émission a été réalisée sous la supervision de Nikolaï Djouchkine. Au revoir.